Radio Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment créer une entreprise collective conformément aux lois de la République démocratique du Congo? On en parle tout à l'heure avec Maître Jacques Bouira-Angui, avocat au barreau du Nord Kivu. Maître Jacques, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, bienvenue dans cette émission, Maître Jacques Angui Bouira. On vous retrouve dans quelques instants. Quelles sont les innovations contenues dans le nouveau statut de l'Union nationale de la presse du Congo? On en parle tout à l'heure avec Monsieur Séverin Bamani, président du comité scientifique de la rédaction de nouveau statut de l'UNPC. Pour participer à cette émission, le standard est ouvert. Composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Jean-Noël Mukundo à la mise en onde. Tati Mapoukou coordonne et assure la réalisation de cette émission que présente Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Radio Okapi lance un nouveau programme à partir du vendredi 1er septembre. Les faits sont sacrés, c'est votre programme qui vous permet de faire la différence entre les fake news et la bonne information. Un rendez-vous à ne pas manquer, tous les mardis à 11h50 et en rediffusion dimanche à 19h50 sur la radio de la paix. Radio Okapi, pour une information au service du développement.
Bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui de la procédure pour créer une entreprise collective conformément aux lois de la République. Eh bien, certains citoyens congolais désirent se mettre ensemble et créer leur propre entreprise, ce qui est une bonne chose. Cependant, il est primordial, il est important de connaître la procédure à suivre, la forme juridique de l'entreprise, ainsi que les documents à présenter au guichet unique de création d'entreprise pour concrétiser votre projet. Il est aussi important de signaler que tout le processus de création d'entreprise a été centralisé depuis 2012 au guichet unique des créations d'entreprise afin de réduire les délais des traitements des dossiers et de limiter le nombre des pièces à fournir. Alors comment procéder pour créer une entreprise collective conformément aux lois de la République? Maître Jacques Bouira-Angui, vous êtes avocat au barreau du Nord Kivu. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Kachama.
Bienvenue dans cette émission. Alors, la première question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par entreprise collective.
Oui, une entreprise collective, comme vous venez de le dire, vous aviez tenté d'ailleurs, ou vous aviez déjà défini ça. Je pose l'entreprise collective à une entreprise individuelle qui peut s'agir d'un établissement ou d'une société avec un actionnaire unique. Une entreprise collective, je considère ça, ou je la définis dans la forme d'une société commerciale, dans le langage, dans le jargon courant. Mm-hmm. La société commerciale, l'entreprise collective, c'est cette personne morale créée par deux ou plusieurs personnes. Ils affectent leurs biens dans cette personne morale, dans le but d'exploiter une activité déterminée, avec comme finalité de se partager, de se distribuer les, les bénéfices qui résulteront de cette activité qu'ils exploitent ensemble. C'est ça. Et lorsqu'ils créent cette personne morale, ils doivent la créer conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Les lois, et plus particulièrement, comme depuis l'adhésion de la République démocratique du Congo au traité de l'OADA, les lois applicables en matière de, ou la loi applicable en matière de création des entreprises, c'est l'acte uniforme actuellement, l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt et du groupement d'intérêt économique de l'OADA. Quand je parle de l'acte uniforme, méthodologiquement parlant, c'est comme chez nous lorsqu'on dit code de la route, code civil des personnes. Dans l'acte uniforme là, c'est ce texte juridique là qui parle des questions relatives à la création des sociétés commerciales. Et c'est cet acte uniforme là qui est d'application. Lorsque ces personnes, disais-je, se mettent ensemble pour créer cette entreprise collective, cette société, ils doivent se conformer aux exigences de cet acte uniforme que j'ai cité et ils doivent opter pour le choix d'une des formes de société prévues par cet acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Il peut s'agir d'une société en nom collectif, il peut s'agir d'une société en commandite simple, il peut s'agir d'une société à responsabilité limitée, il peut s'agir également d'une société anonyme. Et aussi, on peut évoquer d'un groupement d'intérêt économique. Et c'est donc dans ce sens-là, sous ces formes-là, qu'une société collective doit être créée.
Bien. Alors, souvent, on entend parler des SARL, SA. Vous avez cité, chaque forme juridique de ces entreprises ou des regroupements, une entreprise, voilà, où les gens se mettent ensemble pour créer de la richesse.
Ah, ok, d'accord. Lorsque deux ou trois personnes se mettent ensemble pour créer cette personne morale appelée société, je disais, ils doivent opter pour l'une des formes. Ça peut être un nom collectif, ça, ce que j'ai dit, SNC. Ça peut être en commandite simple, société en commandite simple, c'est ça qu'on appelle SCS. Ça peut être société à responsabilité limitée, SARL. C'est différent de SARL sous l'ancien régime de la loi. Donc ça, c'est société à responsabilité limitée. Sous l'ancienne forme de la loi, c'était société par action à responsabilité limitée. Mais avec le droit OADA, c'est société à responsabilité limitée. Et la grande forme, la société de capitaux, c'est la société anonyme maintenant. C'est la société qui exige beaucoup de moyens, beaucoup des actionnaires nantis et ça exploite, c'est une certaine catégorie des entreprises. Alors,
pouvez-vous expliquer chaque forme? Commençons par la première forme juridique.
Par rapport aux différentes formes de société, nous pouvons commencer d'abord par la société à nom collectif. Et il peut s'agir de deux ou plus individus qui décident de mettre ensemble leurs biens en vue d'exploiter une activité très bien déterminée. Alors, lorsqu'il s'agit de deux ou trois personnes qui décident de mettre ensemble leurs biens, la différence entre cette société et les autres formes de société, ça va tout simplement résider au niveau des biens qu'ils décident d'affecter pour cette forme de société. Donc, toutes ces sociétés, ils optent pour une société, ils optent pour cette société déterminée, mais le bien affecté à cette société, c'est ça qui va former la différence avec la société en commandite simple et la société à responsabilité limitée. Par rapport aux sociétés, donc il faut voir l'élément capital social, surtout l'élément capital social qui différencie ces formes de sociétés d'autres formes de ces formes de sociétés. Voilà en quelque sorte, parce que le monsieur est trop pédagogique, j'aimerais bénéficier de peu de temps pour faire comprendre à nos auditeurs.
Bien, alors parlons maintenant de la procédure à suivre. Si deux, trois, quatre personnes se mettent ensemble, ils veulent créer leur entreprise, créer une personne morale, quelle est la procédure à suivre jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à la création effective de l'entreprise?
Oui, par rapport à la procédure à suivre pour la création jusqu'à l'aboutissement d'une société, notez tout simplement, vous l'aviez aussi dit, que depuis 2012, il y a un décret, et ce décret a été modifié par l'autre qui est survenu en 2014, c'est le décret numéro 14-018 du 8 mai 2014, à l'époque du premier ministre Matata Ponyo. Ce décret portait création, organisation, fonctionnement du guichet unique de création des entreprises. Donc, toute la création, la procédure de création d'une entreprise commerciale ou individuelle aussi, est centralisée actuellement devant le guichet unique de création des entreprises. En fait, lorsque vous voulez créer une entreprise commerciale, une société par exemple, vous avez tout simplement besoin de vous adresser à une antenne ou au bureau du guichet unique de création des entreprises, parce que dans chaque ville, actuellement, il y a un bureau où il y a une représentation du guichet unique de création des entreprises en République démocratique du Congo. Alors, vous vous présentez devant le bureau muni de deux éléments, notamment une demande de création d'entreprise. Vous vous présentez avec le statut des entrepreneurs-là, de ces personnes qui se sont décidées de mettre ensemble leurs biens. Vous vous décidez de créer, vous vous présentez avec la lettre de demande de création d'entreprise, le statut signé entre vous et évidemment notarié, les spécimens de signature de la personne à qui vous avez confié la gestion de cette entreprise, ça peut être un gérant. Si c'est un étranger, là c'est un cas exceptionnel, vous voulez créer une entreprise, vous voulez de l'expertise d'une personne qui a déjà exercé, par exemple, son ministère dans l'entreprise de production d'huile végétale ou que sais-je encore. Si c'est un étranger, vous produisez son visa. Vous vous présentez également avec une déclaration de souscription du capital social et versement de ce dernier. Vous apportez aussi la preuve de libération du capital et vous payez les frais administratifs pour la création de l'entreprise. Donc, ce sont ces petites informations qui manquent à nos jeunes entrepreneurs ou à d'autres personnes. Ils ont suffisamment de moyens, ils ont beaucoup de moyens pour cette fin-là, mais ils n'ont pas cette information. Pourtant, une petite information qui peut sauver l'économie peut-être de la nation, qui peut orienter les idées de nos jeunes entrepreneurs d'une autre manière. Alors, par rapport aux frais administratifs que je disais, c'est pas aussi cher qu'on peut le croire. Ce n'est plus que $80, je pense. Oui, c'est entre 80 et $100, les frais administratifs. Et puis ça, vous payez à la banque. Ça n'entre pas dans le poche des agents du guichet unique que vous contactez. Donc, c'est ça, en bref, la petite procédure à suivre pour la création d'une société commerciale ou d'une entreprise.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons un premier auditeur en ligne, Safari depuis Iga Barrière. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour également à monsieur Lévité. Oui, par rapport à l'émission, monsieur Lévité vient de nous montrer qu'il y a une loi par rapport à la création d'une entreprise alors collective. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Mais je voulais soulever un point que j'ai vécu avec un oncle paternel. Ils avaient créé, lui, avec son ami, une entreprise. Mais tout à coup, puisque donc l'oncle est tombé fou, je ne sais pas ce qui l'a amené à tomber fou.
Tomber fou, ça veut dire quoi? Il est devenu... Il est devenu fou, c'est ça?
Oui, il est devenu fou. Donc, le problème était là au niveau, il est devenu fou. Il ne pouvait plus gérer l'entreprise ensemble avec son camarade. Mais lui, il est sorti, il est parti. Alors maintenant, le problème est revenu au niveau de la famille. Il fallait qu'un membre de la famille puisse poursuivre donc avec le dossier. Mmh. Alors l'ami, son ami a dit que non, lui, il n'avait pas donc sa part dans cette entreprise. Alors la question est là. Maintenant, est-ce que la loi dont M. Lévité est en train de parler peut aussi contrôler donc cet état de conflit qui était entre mon oncle et son camarade? Sinon, je vous remercie.
Bien, voilà. Donc, l'oncle et son ami ont créé une entreprise, mais après, l'oncle a été frappé de folie. Et la famille est intervenue, mais il semble qu'il y a eu des problèmes. Son ami n'a pas reconnu qu'il avait des parts dans l'entreprise. Maître Jacques, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, je remercie bien l'auditeur. Notez tout d'abord que les questions liées aux entreprises ou aux sociétés commerciales, ce sont des questions écrites. Donc, lorsqu'on crée une entreprise ou une société commerciale, très généralement, il y a des écrits. Il y a des écrits qui restent. Ça veut dire, si l'oncle, je peux parler ça dans le cas généraux, si l'oncle a fait un contrat, parce que la société, c'est un contrat, la société, c'est également une institution. Si l'oncle a fait un contrat, c'est qu'il existe des traces que son oncle a des parts sociales ou des droits dans cette entreprise ou dans cette personne morale créée. Si l'oncle est décédé, ou non, s'il a perdu ses facultés mentales ou ses facultés, alors il appartient à la famille de pouvoir contacter un avocat de leur choix, et celui-ci va les guider comment s'orienter au guichet unique de création des entreprises. Ils vont vérifier dans les documents de cette société-là pour voir si effectivement leur oncle avait des parts sociales ou des droits dans cette entreprise-là. Donc, il y a une très grande traçabilité dans les questions des sociétés commerciales, parce que tout se passe à l'écrit. Donc, lorsque les deux associés se mettent ensemble pour créer l'entreprise, ils signent les statuts. Donc, ils se font rédiger les statuts de la société par un expert. Très généralement, ce sont les avocats qui les font. Après avoir rédigé les statuts de la société, ils vont chez les notaires. Tout ça, c'est à l'écrit. Chez les notaires, c'est à l'écrit. Ils vont avoir un acte notarié chez les notaires. Après avoir eu l'acte notarié chez les notaires, ils vont se diriger, ils peuvent mandater quelqu'un, soit un avocat toujours, ou soit un mandataire d'un autre genre, ils peuvent le mandater pour aller au guichet unique de création des entreprises. L'étape là qui va suivre, c'est le dépôt des statuts de cette société au niveau de l'entreprise, au niveau du guichet unique de création des entreprises. Le guichet de création des entreprises délivre un accusé de réception de dépôt de cette candidature, donc de dépôt de ces statuts de la société. Il délivre, et on mentionne là dedans qui sont les associés qui ont pris part à la création de cette entreprise. Les associés sont tels. Après le dépôt de ces statuts au guichet unique de création des entreprises, après avoir obtenu l'accusé de réception qui est électronique d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, c'est toujours à l'écrit, vous attendez quelques jours, c'est 3 ou 4 jours, et on vous délivre l'extrait du registre de commerce et de crédit immobilier qu'on appelle ou qu'on affiche régulièrement partout RCCM. Mmh. Le RCCM qu'on vous donne, dans le RCCM, on mentionne la date de dépôt de ces statuts, qui a déposé ces statuts, qui sont les associés dans cette société. On mentionne également qui sont ou qui est l'administrateur de cette personne morale. Donc tout est à l'écrit, que c'est impossible qu'on puisse se tromper. Et si même l'autre a commis des actes faux pour se faire attribuer toutes les parts sociales et désintéresser la famille de l'oncle, c'est très facile à découvrir, parce que on doit tenir, autant on a tenu une assemblée générale constitutive de la société au début, autant on va tenir également une assemblée générale, soit des modifications de certains de certaines clauses, soit après cession des parts sociales. Les statuts prévoient comment on peut céder les parts sociales en cas de décès, qui peut récupérer les parts sociales. Tout ça est réglementé par la uniforme là de l'OADA de 2014 que j'ai cité récemment.
Bien, vous avez dit aussi tout à l'heure que vous avez montré la procédure à suivre pour créer l'entreprise et je reviens à la question de savoir le choix de la forme juridique dépend de quoi, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la société anonyme qui demande beaucoup de moyens etc.
Oui, je disais donc c'est le législateur qui catégorise ça, donc c'est le législateur communautaire OADA. Par exemple, pour les sociétés en nom collectif, l'exigence pour créer une société à nom collectif, on exige par exemple que tous les actionnaires soient commerçants, donc tous les associés, qu'ils soient commerçants tous. Vous voyez, ça c'est une particularité pour ces sociétés à
nom collectif.
Il y a aussi la société en commandite simple. Et donc ça c'est une société dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales qui sont dénommées commandité cela. Et pour la société à responsabilité limitée, vous voyez, c'est une société dans laquelle les associés ne sont pas responsables des dettes sociales. Donc la société dont le patrimoine, ici on commence à catégoriser, à différencier. Le patrimoine de la société qui est une personne morale avec le patrimoine des associés. Donc la responsabilité de ces associés est limitée uniquement à leur part sociale. C'est tout de même comme pour les sociétés anonymes. Alors, et chaque société ici, et pour chacune de ces sociétés ici, le législateur a prévu un montant déterminé de qui doit constituer le capital social de la société. Au fur et à mesure, ils sont en train de faire leurs activités commerciales. Au fur et à mesure, ils augmentent en capital. Au fur et à mesure, donc, les responsabilités aussi, les responsabilités des associés, ça se limite seulement à leurs avoirs dans cette société, dans ces genres de sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée. Par ailleurs, dans les sociétés anonymes, donc ce sont des sociétés des actionnaires. Dans, là où on parle des actionnaires, là ce sont des gros investissements. Par exemple, comme actuellement vous pouvez voir, toutes les sociétés minières bancaires, disons, les banques et consorts, actuellement, c'est sous la forme de sociétés anonymes. Vous ne pouvez pas avoir une institution financière ou une institution bancaire sous forme d'une société à responsabilité limitée. Donc, les apports de ces actionnaires dans ces banques, c'est à ça que sont limitées les responsabilités. Si la banque est liquidée, c'est seulement sur les apports de ces associés-là que les tiers vont se rabattre pour soit se faire payer, pour obtenir un paiement de ce qu'ils ont eu comme engagement avec la société.
Voilà. Et sinon, voilà. On est par exemple à 2, 3, 4, 5, on crée une société. Alors, nous sommes tous des fondateurs, bien sûr. Est-ce qu'il faudra directement aussi déterminer qui seront les dirigeants de cette entreprise?
Oui. C'est lors de la création même de l'entreprise que vous déterminez parmi vous. Soit le gestionnaire de l'entreprise, de la société, ça peut être parmi les associés, ou si ce n'est pas parmi les associés, vous pouvez prendre aussi une tierce personne pour venir administrer votre société. Et celui-ci a des comptes à rendre maintenant à l'assemblée générale de tous les actionnaires ou de tous les associés. Alors c'est au moment de la création de l'entreprise, soit par un acte séparé ou dans les statuts, que vous désignez celui qui va administrer la société. Lorsque je parle d'un acte séparé, ça peut être après l'assemblée générale constitutive de la société, vous appelez ou vous faites un procès verbal dans lequel vous désignez le gérant de la société. Ce gérant répond de ses actes répond de la gestion de l'entreprise devant tous les associés. Les associés se réunissent en assemblée générale, donc ils se mettent ensemble et disent « Ok, pendant tel exercice, de janvier jusqu'à mai de l'année 2023, nous avons créé l'entreprise qui a commencé à fonctionner au même moment pour, par exemple, la production ou la production de poissons. »
Ou de l'huile de palme.
De l'huile de palme, telle que j'ai dit. Mmh. Alors, le gérant va leur dire, OK, comme nous étions dans la phase constitutive de la société, nous avons affecté telle dépense pour le paiement des agents, nous avons affecté telle dépense pour le paiement du fisc. Après le fisc, nous avons payé aussi les cotisations sociales et tout. Et le montant restant, c'est tel montant, ça peut être par exemple 500 ou 1000 dollars entre les trois associés. Et après, moi aussi, gérant, je me suis fait payer. Et il me reste, par exemple, 400 ou 500 dollars. Le 500 dollars, c'est ça, on va distribuer à tous les associés. Ils peuvent aussi décider, non, comme nous sommes au débit, cette somme-là, on l'affecte au capital de la société pour espérer une grande production ultérieurement ou prochainement. Voilà. Donc, c'est ça. Et si c'est parmi les associés que vous avez créés, vous avez désigné un membre ou un... Si c'est parmi les associés que vous avez pris l'un parmi vous, vous avez désigné l'un pour administrer la société, au-delà de la somme d'argent qu'il va bénéficier comme actionnaire ou associé de cette entreprise, il aura aussi sa part comme gérant de cette entreprise. Parce que vous êtes assis à la maison, lui, il travaille pour vous tous. C'est très simple qu'il soit rémunéré et prorata de ses prestations.
Bien, nous parlons aujourd'hui de comment créer une entreprise collective conformément aux lois de la République. Notre invité, c'est Maître Jacques Bouira-Angui, avocat au barreau du Nord Kivu, intervenant depuis la ville de Goma.
Bonjour, monsieur.
Radio Kapi lance un nouveau programme à partir du vendredi 1er septembre. Les faits sont sacrés, c'est votre programme qui vous permet de faire la différence entre les fake news et la bonne information. Un rendez-vous à ne pas manquer, tous les mardis à 11h50 et en rediffusion dimanche à 19h50 sur la Radio de la Paix. Radio Kapi, pour une information au service du développement.
Bien, comment créer une entreprise collective conformément aux lois de la République? On va accueillir Justin de Bounia et Nkoulou depuis Fungurume. Justin, vous êtes à Bounia, bonjour, et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour monsieur Jody, bonjour aussi à notre invité. Allô?
Allez-y, on vous a donné la parole.
Oui monsieur Jody, en tout cas merci beaucoup pour la thématique du jour. Oui, j'ai une question en tout cas à poser à l'invité. Oui, après avoir créé une entreprise collective, maintenant, au moment de la dissolution, on peut partager. On a fait, par exemple, une année ou deux ans, et maintenant, l'un de vous, par exemple, est décédé, ou vous voulez seulement dissoudre au moment de la dissolution. Quelles sont les conditions requises? Merci et bonne journée.
Bien, merci Nkoulou, depuis Fungurume. Bonjour, quelle est votre question? Nkoulou, vous êtes à Fungurume, mais bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Je dis bonjour à notre invité qui est au studio ainsi que la population de Luena qui nous suivent en ce net moment.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai presque trois grandes préoccupations. La première est la suivante. Je voulais savoir, il y a presque 13 documents que les entrepreneurs doivent détenir. sur ces 13, est-ce qu'il y a les autres qui priment? Parce qu'il y a ceux qui sont à vie et ceux qui sont périodiques. Si, à l'occurrence, je peux citer les périodiques, attestation à la TVA, attestation de gestion fiscale, avis d'assujettissement à la TVA, et peut-être les documents de l'autorité de régulation des sous-traitances, permis, et d'autres documents qui sont à vie. Alors, parmi ces documents, quels sont les documents que les entrepreneurs doivent détenir pour avoir déjà l'accès au marché? Ça, c'est la première question. Deuxième question, nous avons les expatriés qui se métamorphosent en Congolais. Nous avons des entreprises en Chine. Par exemple, on n'utilise pas les noms Prosper, Magingo, ainsi de suite. Mais nous voyons un Chinois qui amène son entreprise avec les noms des Congolais. Et parfois, il brandit même les Congolais devant. Est-ce que ce genre de pratique garantit aussi les étiquettes utilisées? Ou soit, nous avons l'événement malheureux qui nous est arrivé avec Tenke Fungurume Mani, que l'autorité de régulation des sous-traitances a mis la main sur ces gens. Nous voulons, si notre invité a des textes qui doivent nous réglementer avec des genres de pratiques. Ça, c'est le deux. Troisièmement, c'est pourquoi il est un juriste. Les confiances de nos autorités donnent les marchés aux expatriés. D'ailleurs, c'est l'État qui devrait faire l'exemple en donnant les marchés aux Congolais.
Bon, aujourd'hui, on n'est pas à cette étape-là de marché. On va aborder ça prochainement. Aujourd'hui, on se limite à la création des entreprises. Merci d'avoir appelé. Maître Jacques Abouira, vous avez la parole.
Voilà. Oui, je vous remercie beaucoup. Je remercie les deux intervenants, notamment M. Nkoulou et M. Justin Debounia. Il y a des éléments très importants qu'ils viennent de soulever, mais je vous remercie également la Radio Okapi, vous qui avez choisi ce genre de ce sujet, parce que très généralement, dans la plupart des émissions actuellement en RDC, c'est soit la politique, soit tout, on oublie l'économie, le cœur, le poumon même d'une nation, l'économie, comment on peut encourager le jeune, les entrepreneurs à faire ça, ça et ça, parce que on peut considérer que les notions de création des entreprises, les notions de création de société, ça n'existe pas dans le tête des Congolais, ou soit les Congolais ont des frustrations, ou ils craignent la question-là. Pourtant, c'est trop simple et c'est trop productif qu'aller faire, par exemple, autre activité, la politique et autres. On peut faire la vie aussi en créant des sociétés et entreprises. Alors, en répondant à leurs questions, je peux dire ceci en ce qui concerne, par rapport aux questions, à ce qu'a demandé M. Koulou, 13 documents qu'on doit détenir, il s'est rabattu surtout sur les questions fiscales et tout. Non, c'est pas seulement ça comme document qu'on doit avoir. Les principaux documents, ici nous parlons de la création d'une société, d'une entreprise. Donc nous sommes dans vraiment les éléments les plus élémentaires qui permettent à ce qu'il y ait existence d'une société ou d'une entreprise. Ces éléments élémentaires sont notamment, vous mettez ensemble, vous signez ces contrats-là. Et qu'on appelle généralement statut, premier document. Deuxième document, vous transportez au niveau du bureau du guichet unique de création des entreprises. On vous délivre les actes que j'ai cités ici récemment, l'accusé de réception, et plus tard on vous donne le RCCM. Grâce au RCCM, vous allez faire identifier votre société. Vous identifiez votre société ou la société sera identifiée au ministère de l'économie. On vous délivre l'identité nationale, l'identification nationale de la société. Par la suite, parce que vous êtes un bon citoyen, vous devez payer les impôts, vous devez avoir un numéro impôt, parce que vous produisez des bénéfices. Or, l'impôt, le fisc frappe partout où il y a réalisation des profits ou des bénéfices. Et comme vous employez aussi des gens, le fisc doit intervenir là-bas. Comme il y a autant de transactions que vous faites, le fisc doit intervenir. Or, pour vous identifier, au fisc, vous devez avoir un numéro impôt. C'est ça, le numéro impôt. les agents qui sont dans la société, vous devez informer à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Vous devez, pour engager les gens, pour tout, vous devez aller à l'ONEM. Pour la préparation professionnelle des agents, l'INPP, vous devez acquérir les documents de l'INPP. Il peut arriver, vous aurez besoin d'importer ou d'exporter des matières premières ou d'importer les produits d'exporter ce que vous avez produit. Il faut avoir les numéros import et export dérivés par le ministère du Commerce extérieur. Donc c'est l'ensemble des documents, les généraux des documents. Alors en plus de ces documents, c'est là où il y a un élément très important parce que j'ai entendu mon frère Nkulu depuis Fungurume me dire que la sous-traitance... Non, la partie ici, ce que je veux dire ici, c'est très important. Dans chaque société concrète, chaque société a un secteur d'activité ou un domaine pour lequel il a été créé ou dans lequel il intervient. Or, chaque domaine de la vie sociale dans le pays est administré ou réglementé ou il existe une autorité de tutelle pour chaque domaine. Ça peut être dans l'électricité, par exemple. Il existe une autorité de tutelle dans l'électricité au niveau provincial et au niveau national. Il y a des documents requis pour travailler dans ce secteur. Il peut s'agir dans le secteur du secteur des mines, dans le secteur des domaines. À part tous les documents que je viens de citer, les documents de base, vous avez, ça c'est pour la création de la personne morale, vous vous adressez maintenant à l'autorité de tutelle dans le domaine minier. Il peut s'agir dans le secteur de sous-traitance. Vous vous adressez maintenant à l'autorité de tutelle dans la sous-traitance. Il peut s'agir dans autant des domaines d'activité, production d'huile de palme. Vous vous adressez à l'autorité de tutelle dans cette activité, la réglementation par rapport à l'hygiène, par rapport à tout. Tous ces éléments-là, vous devez en avoir parce que vous êtes dans ce domaine. Là, et c'est lui qui chapeaute ce domaine-là de manière administrative. C'est cette autorité-là qui vous délivre tous les restes des documents. Mais vous avez au moins la base des documents qui peut vous permettre d'obtenir les autres documents. Ça veut dire que vous ne pouvez pas obtenir les documents du ministre qui relève de l'autorité du ministre national des mines alors que vous n'avez pas encore créé cette société. Il va les délivrer à qui ? Il va les délivrer à une personne morale inconnue. Donc vous devez avoir d'abord tous les documents de base pour ensuite vous adresser aux autorités de tutelle afin d'avoir d'autres éléments. C'est ça.
Bien.
Allô?
Oui, bien. Il a posé une autre question, celle de savoir pourquoi un Chinois, par exemple, qui arrive en RDC et qui crée son entreprise avec un nom congolais, tout ça, etc., voilà, et il se demande pourquoi, quelle est la procédure qui permet d'agir ainsi.
Non, si le Chinois crée une entreprise avec un nom congolais et il exploite ici, c'est de son droit, parce que nous aussi congolais, si tu as ton argent, si tu as tous tes moyens, en marche, si tu veux, tu peux aller créer une société en Chine. Et d'ailleurs, il y a des Congolais qui ont des sociétés, des entreprises en Chine. Si ils sont nombreux ici chez nous au pays, c'est parce que nous n'avons pas la culture de création des entreprises, des sociétés commerciales. Nous n'en avons pas. Laissez, et puis c'est très normal que ceux qui viennent de l'extérieur puissent en exploiter. Nous puissent les créer. Et ils tirent effectivement beaucoup de bénéfices et beaucoup d'intérêts dans les choses qu'ils créent dans ces sociétés. Pendant que nous sommes en train de chercher pendant que nous, Congolais, qui connaissons très bien nos terrains, nous qui connaissons les besoins élémentaires, les besoins que la population, qu'a la population, nous ne voulons pas créer des entreprises. C'est normal que les étrangers, les expatriés viennent les faire. Et lorsqu'ils vont les créer, ils vont nous donner juste des petits emplois. Ils vont bénéficier beaucoup d'argent dans ces entreprises. Mais nous qui devrions créer ces entreprises pour booster l'économie du pays, pour exporter nos productions à l'extérieur du pays, nous ne le faisons pas. C'est normal que ceux qui viennent de l'extérieur le fassent et lorsqu'ils vont le faire, ils vont se retrouver, ils vont avoir beaucoup d'argent, ils vont investir chez eux. D'ailleurs, lorsqu'ils vont créer ces entreprises, ils produisent l'argent ici chez nous, mais lorsqu'ils vont construire une maison, ils ne vont pas construire ça à Kinshasa, à Goma ou à Bukavu. Il va amener son argent, il construit chez lui. Il va faire étudier son enfant dans des meilleures écoles de chez lui. Et au dos de l'argent qu'il est en train de...
d'amasser au Congo.
Oui. Alors, nous devons prendre conscience, c'est très important, nous, Congolais aussi, nous devons prendre conscience pour rentrer dans la compétition. C'est par exemple, je peux dire, tous les États, tous les pays limitrophes ici, tous les pays de l'Est, dans ces pays-là, partout, ce sont des entreprises qui sont créées. Mais ici, chez nous, au Congo, je peux vous donner un exemple, même les entreprises de production d'eau potable, des sociétés. Vous ne pouvez pas en trouver, il n'y en a pas assez d'entreprises. Production ou fabrication, emballage et puis importation des gaz et tout. Production des aliments et conservation des aliments, il n'y en a pas. Et dans le domaine de l'agriculture, il n'y en a pas. Tout est soit traditionnel, soit on fait l'importation. Alors, c'est à nous, Congolais, de prendre conscience de ça. Et soit on peut décider de réduire la création des partis politiques au profit de la création des sociétés commerciales et pour créer alors de l'emploi. C'est une observation, c'est une idée que je donne et c'est une réponse que je donne aussi à l'auditeur.
Bien, nous parlons aujourd'hui de comment créer une entreprise, quelles sont les démarches à suivre pour créer une entreprise conformément aux lois de la République. Le sujet vous intéresse, eh bien, appelez au 081-890-6394, écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Festival Sans Voix pour la Paix. Ensemble, faisant vibrer nos voix au rythme de la paix en RDC. Le 22 octobre, à partir de 12h, au village Iusi à Goma, en marge de la célébration de la Journée internationale de la paix. Au menu, un grand chœur de 100 choristes qui chantent à l'unisson pour la paix au Congo. Et une collecte spéciale sera organisée en faveur des déplacés de guerre. Le festival Sans Voix pour la paix Gospel Mass Choir for Peace, célébrant tous ensemble la paix par le gospel pour un Congo fort et prospère.
Bien, comment créer une entreprise collective conformément aux lois de la République? Maître Jacques Bouira Angui, avocat au barreau du Nord Kivu. Et notre invité, on va accueillir Malunga depuis Kinshasa. Malunga, bonjour.
Oui, bonjour Jody, et bonjour à tous ceux qui nous suivent à notre invité.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation, je dis vraiment ce que l'invité vient de dire, c'est ce qu'il faut et c'est ce qu'il sait tenter de se faire. Mais ma préoccupation, c'est celle-ci. Ouvrir une entreprise collective ou bien individuelle, en tout cas, c'est normal. Toutes les conditions doivent être réunies. Et ça se fait. Mais ce qui manque, et ce que je demande à l'invité, la subvention. L'État ne veut
pas. Il y a des soucis par rapport à la liaison. Voilà, ça s'est arrangé maintenant. Allez-y.
Moi, je dis, la subvention que les Québécois accompagnent,
Désolé, Malunga, la communication n'est pas du tout bonne. Bon, il me semble que vous étiez en train de parler d'une subvention. Est-ce que l'État accorde des subventions aux entreprises? Je ne sais pas trop. Alors, maître, est-ce que il y a des subventions? L'État soutient les entrepreneurs?
Normalement, dans chaque État, et pour booster l'économie du pays, l'État doit favoriser les entrepreneurs. Et si l'État ne le fait pas, c'est que aucune société ne peut avoir sa vie. Mais malheureusement, chez nous au Congo, parce qu'il faut dire la réalité des choses telles qu'elles sont. Lorsque X crée une entreprise, une société avec Y, c'est tous les services de l'État qui sont chaque jour aux portes de X et Y, aux portes de cette société créée par X et Y. Tous les jours, ils sont là. tous les jours, ce sont des amendes, tous les des amendes qui se confrappent de cette entreprise. Tous les jours, ce sont des invitations de service. Tous les jours, ce sont les services de sécurité qui sont en train de sillonner, en train d'observer ces activités. Donc, disons, c'est devenu un champ pour les agents de l'État. Donc, tout celui qui intervient dans ce domaine-là, donc les gens qui ont créé ces entreprises-là ne respirent pas.
Alors, Maître Jacques, déjà, oui. Au début, à la création, on nous dit souvent qu'au niveau du guichet unique de création d'entreprise, quand vous allez là-bas, en 3 jours, vous avez les documents sans problème. Mais aujourd'hui, c'est devenu un calvaire pour les entrepreneurs qui veulent créer leur structure, leurs entreprises.
Et effectivement, ça aussi, c'est un problème parce que au moment de la création de cette structure-là, le guichet unique de la création des entreprises, tous les animateurs de cette structure étaient trop rigoureux vis-à-vis de leurs agents et il y avait des communiqués partout, des Goma, Kinshasa, Lubumbashi et partout. Vous pouvez lire ici, la corruption n'est pas admise, tous les services non payants et tout, vous payez seulement les frais administratifs. Mais aujourd'hui, avec la réalité des choses, c'est que pour qu'on rende un service, à un moment donné, il faut soit se traiter ou collaborer avec les agents au sein du service, avec certains agents, je ne dis pas que c'est tout. Mmh. Et pour qu'on vous sorte un document, il faut supplier, alors ça décourage même celui qui avait cette bonne initiative et cette bonne volonté de faire son entreprise. Plus fort, lorsqu'on commence à exercer son activité, et là ça devient plus grave, ce sont maintenant les agents de l'État qui commencent à inquiéter ou à troubler les entrepreneurs. Et là, dans cette situation, beaucoup d'investisseurs venus même de l'extérieur comme ceux de l'intérieur ont abandonné les projets parce qu'ils se sont vus menacés par autant de taxes, ils se sont vus menacés par autant d'interventions, par autant de demandes inutiles. Parfois, vous voyez un chef de division qui appelle et dit non, là chez vous, vous produisez de l'huile de palme. Mais vous ne voyez pas que mes enfants doivent manger ou doivent avoir quelque chose. Il faut envoyer quelques cartons chez moi. Alors, quelques cartons, mais vous ne comprenez pas que celui qui est en train d'investir, il n'est qu'à la phase qu'au début de tout son investissement. Il doit d'abord capitaliser, il doit d'abord asseoir son entreprise, après que l'entreprise soit assise, c'est là qu'il peut commencer à voir si, bon, dans son bénéfice, dans ses intérêts, il peut faire ça et ça, au profit de tel ou de tel, une donation au profit de tel. Mais ce sont des demandes qui empêchent même la personne à voir clair et commence à craindre pour son investissement. Voilà, c'est tout. C'est autant de problèmes qu'ils rencontrent aussi les investisseurs. Donc l'État congolais aussi doit prendre ses responsabilités pour protéger les investisseurs. Ça ne doit pas être dit seulement sur les réseaux sociaux et dans des conférences de presse et tout, que non, il y a tel entre... On fait ceci pour favoriser, pour booster l'économie, et pour favoriser les entreprises en création et les entreprises qui sont déjà créées à bien fonctionner.
Voilà, on parle tout souvent de l'assainissement du climat des affaires. Déjà, à la création, il y a beaucoup de soucis. Comme ça, il faut beaucoup de démarches, ça prend beaucoup de temps. Il faut sortir de l'argent à gauche, à droite pour faire avancer les dossiers. Et ça... ça n'encourage pas les entrepreneurs.
Effectivement, ils ne seront jamais encouragés parce que vous venez de créer une société, le capital social c'est à 2 000 $, 4 personnes. Je suppose vous avez mis $500 par personne. Et arrivé au guichet unique seulement, le montant du capital social là, que vous avez déboursé, vous avez débloqué, vous avez mis dans une institution financière déterminée, on commence à vous dire non, pour avoir tel document, il faut déjà donner $200 ou $100 sur le capital social, alors que vous aviez prévu que ce montant, ça sera par exemple pour acheter déjà 1 500, ça sera pour acheter de la matière première et 500, ça sera pour la transformation. On commence déjà à vous demander $200. Est-ce que vous allez continuer l'idée de la création? Ça pose problème. Vous arrivez chez le notaire, par exemple, l'idée c'est la création de cette entreprise, le notaire vous demande $500.
Et parfois, cette somme-là n'est pas reprise ou n'est pas conforme à ce qu'il devait exiger. Vous voyez, ça crée autant de difficultés. On aurait pu accepter, par exemple, ou on aurait pu encourager le gouvernement que lorsqu'il y a une création des entreprises, on dit à tous les notaires que lorsque c'est une création créée par des jeunes, par exemple, de tel âge à tel âge, laissez-les. Pour légaliser leurs documents, vous ne demandez rien. Ils sont exemptés des paiements de quelques frais. Guichet de création des entreprises, peut-être aussi même chose, et que les documents sortent à temps. Ça aussi, ça peut être une façon d'encourager les jeunes. J'ai eu un cas que j'ai traité récemment, de création d'une société. Ça, c'est un exemple particulier de création d'une société où j'avais introduit la demande de création de l'entreprise au mois de janvier 2022. Et j'ai eu l'extrait du RCCM au mois d'août 2022. Donc, comptabilisez combien de mois?
Oui, pratiquement 8 mois.
Pratiquement 8 mois, effectivement. Vous voyez, quel est cet entrepreneur qui n'attend que le document, le premier document pour le lancement de ses activités? Et ça fait 8 mois. Il va attendre ou il va se désolidariser avec cette idée de création des entreprises. Sûrement, il va laisser. Parce qu'il ne voit plus clair. Or, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde où tout le monde y va. C'est vrai, on dit aux entrepreneurs, il faut avoir un cœur dur, mais ils vont tous en ayant peur. Or, il faut essayer de voir comment on peut élaguer cette peur-là pour leur permettre d'avancer très rapidement. Et cette peur doit être élaguée lorsque il se présente au guichet unique de création des entreprises, il a les documents sur les champs sans beaucoup de difficultés. Mais également, il faut que l'État congolais songe aussi au traitement de ses agents de création d'entreprises. Parce qu'ils occupent un poste ou des fonctions très, 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 très importantes pour l'économie du pays. Alors, s'ils sont maltraités, ils vont se rabattre sur le dos des entrepreneurs. Les entrepreneurs aussi, ils vont avoir peur de continuer avec leurs idées. Et par conséquent, aucune société commerciale ne sera créée. Donc, il faut que l'État congolais réfléchisse surtout sur ces questions.
Et pourtant, le gouvernement encourage de plus en plus la création des entreprises à travers la République.
Théoriquement, oui. Le gouvernement encourage. Théoriquement, oui. Et parfois dans certains domaines, on encourage. Mais est-ce qu'il y a des mesures de suivi? Là, je pose autant de questions. Parce que si ce que nous voyons par-ci et là, et ce que les agents de certains services font pour vouloir se retrouver sur le dos des entrepreneurs, vous voyez, vous pensez que l'État a abandonné. Vous pensez, je ne dis pas que l'État a abandonné, mais quand on voit la réalité sur le terrain, on pense qu'effectivement, l'État encourage sur les médias, mais l'État ne fait pas de mesures de suivi de ces encouragements-là.
Voilà. Nous parlons aujourd'hui de comment créer une entreprise collective conformément aux lois de la République. L'invité nous a donné la procédure à suivre pour créer cette entreprise. Il a donné également les différentes formes des structures qui existent. Alors, pour terminer, maître, qu'est-ce qu'on peut retenir? Pouvez-vous résumer en quelques mots la procédure rapidement pour créer une entreprise collective?
Bref, la création d'une entreprise est trop simple. Quiconque a de l'argent pour investir, il faut voir, il faut visiter aussi des pays étrangers, voir ce qu'ils font là-bas, amener cet argent-là, consulter un cabinet expert, généralement les avocats, ils vont faire pour vous les statuts. Après avoir fait les statuts, il va déposer au guichet unique de création des entreprises tous les documents de base pour l'entreprise, pour la société commerciale. Vous les obtiendrez à partir du guichet unique de création.
Merci, maître Jacques Bouira Angui. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Nord Kivu. Vous intervenez depuis la ville de Goma. Excellente journée et à la prochaine.
Je vous remercie.